Allez, bienvenue sur Charles King Radio avec une interview aujourd'hui. C'est même d'ailleurs double interview, Jean-Claude Van Coenberg avec Didier Albin, à l'occasion justement de la sortie de ce livre, Van Co, Confidence douce et amère, aux éditions Kenes. Bonsoir Didier Albin, bonsoir Jean-Claude Van Coenberg.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors évidemment, c'est un plaisir de vous recevoir ici dans ce studio pour ce livre qui est tout fraîchement sorti, j'ai l'impression. Un ouvrage que vous avez co-écrit, je dirais, Didier Albin. Voilà, comment il est né ce livre ? J'ai l'impression qu'il est né au coin d'une table. Hein.
Tout à fait. Donc ça s'est passé dans un restaurant de Charleroi. C'est souvent comme ça que les choses commencent d'ailleurs dans notre ville, autour d'une bonne table. Et donc je me suis retrouvé en face de Jean-Claude Van Coenberg, hein, que j'avais côtoyé en tant que journaliste, puisque ça fait quelques années que je travaille sur Charleroi. Et ben, il a commencé à me raconter des choses que je n'avais jamais entendues, que j'ignorais. Et donc je lui ai proposé une biographie. Tout de suite, il a dit non. Et donc, par la suite, je lui ai proposé un autre format qui était un abécédaire, donc, où finalement, ce sont des petits récits par lesquels on peut entrer dans le bouquin, un peu où on veut, par la dernière page, si on le souhaite. Et donc, ça, l'idée l'a séduit. On a fait un bout d'essai, ça a marché, et voilà, le livre est là maintenant.
C'est ça, c'est un peu la vie de Jean-Claude Van Coenberg, de A à Z. Des livres sur vous, on en a eu quelques-uns, et puis celui-là, de A à Z, il n'y a pas la lettre Z, hein.
Quoique... Oui, c'est pour ça que je n'étais plus partisan de faire une troisième biographie qui nécessairement aurait dû reprendre beaucoup de ce que avait déjà été écrit. Et donc l'idée de faire Amitié, Bois du Casier, Socialisme, du Roupeau, Wallonie, Magnette, de faire des sujets les uns après les autres de façon courte, ben, ça m'a plus séduit. C'était, je trouve, plus intéressant pour le lecteur que de refaire une longue tradition de tout ce que j'avais fait depuis mon enfant jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait quand même pas mal de temps.
Et il y a la lettre Z d'ailleurs. Alors justement, l'une des premières lettres, c'est la lettre A avec le mot affaire. Et bon, voilà, c'est quelque chose qui vous colle peut-être à la peau, si j'ai l'impression.
Mais en tout cas, qui lui a collé à la peau, puisque pendant plus de 10 ans, il a été la cible de toute une série de procédures judiciaires. Aucune n'a abouti à autre chose qu'un acquittement. Et donc, ben, c'était pour lui l'occasion, effectivement, de expliquer cette situation-là, revenir sur ces affaires-là. Et donc, c'est vrai qu'un bon livre sur Van Co, sans les affaires, ce n'est pas possible.
Mm-hmm. Oui, parce que sur toute une longue carrière, ça m'a quand même pourri 10 ans de ma vie. Et donc, tous les matins, vous levez en vous demandant est-ce qu'il ne va pas y avoir une perquisition, avoir des assignations, avoir des procédures sur le dos, devoir se justifier devant le Parlement, devoir comparer devant la cour d'appel, devant le tribunal de première instance à Charleroi. Donc, pendant 10 ans, je n'ai fait que me battre pour essayer de me défendre. Ça vous obsède, ça mange votre vie. Mais donc, le résultat est positif, puisque finalement, la montagne n'a même pas accouché d'une souris, puisque c'était l'acquittement sur toute la ligne. Et encore, je pense que j'ai été victime d'un terrible acharnement, puisque le jour où je suis acquitté par la cour d'appel de Liège, chambre réunie, c'est-à-dire l'instance la plus largement composée, de Valkenes, le procureur général, va en cassation pour essayer de revenir sur cet arrêt-là. Donc, il a été renvoyé, perte et fracas par la Cour de cassation, mais c'est dire si j'en ai bavé pendant toute cette période. Il était impossible de faire un livre sans parler de ça, d'autant que les deux précédents s'étaient arrêtés avant les affaires. Donc, j'en ai profité, évidemment, non pas pour régler des comptes, comme j'ai l'habitude de dire, mais pour les solder. Parce que maintenant, c'est dit, j'ai réglé quelques situations, j'ai dit ce que j'en pensais, voilà, je tourne la page.
C'est un traumatisme pour vous, cette période ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup de livres sur des hommes politiques qui ont été poursuivis. Tout le monde dit que c'est une nuit noire. Ça ne vous quitte pas, ça vous obsède. Et je pense que je n'ai tenu que parce que pendant 10 ans, je me suis battu, j'ai rédigé des mémoires, je me suis documenté, j'ai rencontré des gens, etc. Je me suis moi-même étonné que pendant 10 ans, je n'ai pas été déprimé, je n'ai pas lâché prise, mais c'est parce que je me levais le matin en me disant « tu n'as rien fait de mal, tu dois te battre. Et donc, ce que je faisais, ce qui ne veut pas dire que de toute cette période-là, je n'ai pas une responsabilité morale ou politique, puisque sous moi, un certain nombre de gens avec qui je travaillais ont fait des erreurs, des fautes, etc. Mais ce qu'ils avaient fait, pénalement, c'était ce qu'ils avaient fait. Ils ne devaient pas m'être imputés, sauf que, comme patron politique d'une région, quand vous avez un certain nombre de subordonnés qui fautent, eh bien, vous devez en assumer la responsabilité. C'est ce qui a amené finalement dans ma démission. Beaucoup de gens disent que vous n'auriez pas dû démissionner, mais je pense que la charge était telle et la responsabilité quand même du patron qui n'a pas pu contrôler, pas pu empêcher les choses, était engagée. Et donc j'ai fait ce que logiquement je devais faire, j'ai démissionné. Mmh.
C'était important évidemment de coucher ça sur le papier parce que vous venez de le dire, effectivement, les précédents livres sur vous s'arrêtaient à cette période.
Exactement. Oui.
Et c'est une sorte de thérapie, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait, c'est une catharsis. Je pense que d'abord, pendant toute la période, le fait que j'ai rédigé des mémoires, que j'ai rédigé des notes, que je me sois battu partout, ça m'aidait déjà à tenir, mais ici, évidemment, les choses s'étaient un peu estompées avec le temps, mais il m'a quand même plu de revenir sur toutes ces situations parce que ce n'est pas normal qu'un homme politique qui n'a rien fait soit poursuivi avec acharnement pendant 10 ans. Alors, si j'avais été condamné, je ne serais pas ici pour vous le raconter. Mais comme je n'ai pas été condamné et même comme j'ai été blanchi à tous les niveaux, il me semblait que ça valait la peine d'analyser le mécanisme que j'appelle le populisme pénal. C'est à un moment donné, c'est quand le juge d'instruction ou procureur se prend pour un justicier dans la ville et essaye de mettre de l'ordre, de vous trouver des fautes, etc. Mais enfin, ils n'y sont pas parvenus en ce qui me concerne.
Mais il n'y a pas que ça hein, dans le livre.
C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire effectivement, Didier Onivien.
Parce que vous m'entraînez.
Mais c'est assez passionnant effectivement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a notamment pas mal de bâtiments Carolo qui sont cités là-dedans. Je pense par exemple aux Beaux-Arts. Je pense par exemple au Bois du Casier que vous, enfin dont vous êtes d'ailleurs le président. Et il y a le mot hôpital. Il y a un hôpital en particulier qui n'est plus ici à Charleroi, qui vous manque, je crois.
Vous parlez de la maternité d'Anastrit. Oui, ça c'est quand un homme politique qui dirige une ville, inévitablement, il fait de bonnes choses et il commet des erreurs. Avec le recul, je reconnais que c'est une erreur fondamentale que j'ai fait. Un si beau bâtiment rose en face de chez moi, par le bon, etc., un look incroyable. J'ai donné le permis de démolir parce qu'on me promettait à la place un grand hôtel moderne qui n'existait pas à Charleroi. Je me suis dit, ça, c'est quelque chose dont nous avons besoin dans une grande ville. Donc, l'hôtel n'est pas venu, mais la maternité est disparue.
Et à la place, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un stade. Voilà.
À côté, il y avait des bâtiments et le stade.
Voilà. Dans tous ces autres bâtiments, notamment, tout ce Charleroi, pardon, que vous avez créé, évidemment, vous en êtes fier aujourd'hui parce que ça, c'est la lettre C, la lettre Charleroi, ce Charleroi de l'époque, ce Charleroi que vous avez connu, vous en êtes fier.
Je crois immodestement que j'ai mis ma pierre dans le redressement et l'expansion de Charleroi. Évidemment, tout ça se poursuit par d'autres. Mmh. Mais bon, je trouve un peu court ceux qui pensent qu'il ne s'est rien passé pendant la période où je dirigeais la ville. Et il ne faut pas oublier qu'en 1983, quand je me suis devenu bourgmestre, l'État à moitié en faillite. Il y avait un endettement important, je l'ai résorbé, j'ai essayé de la développer, j'ai amené l'aéroport, j'ai amené les universités, j'ai amené des transformations. Évidemment, tout n'était pas parfait, il y avait encore beaucoup à faire. Malheureusement, nous avons subi deux chocs et deux crises importantes. L'affaire Dutroux nous a créé une mauvaise réputation dans le monde entier. Et puis, nous étions parvenus à remonter. Les affaires nous ont fait redescendre. C'est le mythe de Sisyphe. Charleroi monte et redescend. Maintenant, on est de nouveau dans une phase ascendante avec Paul Magnette qui fait tous les efforts nécessaires pour redévelopper la ville. Mais la ville avait déjà des handicaps au départ, ville industrielle, ville récente, ville où le revenu moyen des habitants était le plus bas. C'était dur de la redresser et on avait chaque fois des chocs, des arrêts. Mais je crois que maintenant, c'est reparti.
Magnette, justement, c'est la lettre M, vous en parlez dans le livre.
Oui, comment ne pas en parler? C'est l'homme clé aujourd'hui pour Charleroi. Et j'ai l'honnêteté de dire que ça n'a pas été un amour fou dès le premier jour, parce que le parti à Charleroi socialiste était mis sous tutelle. C'est lui qui a été désigné par Diropo de Bruxelles, qui est descendu sur notre dos, gérer tout à notre place. Et donc, j'ai d'abord eu une phase de résistance, de rébellion. Et puis après, on a appris à se connaître, on a appris à travailler ensemble. Et aujourd'hui, nous avons des rapports tout à fait normalisés. Même si nous lisons l'un et l'autre, nous n'allons pas aller en vacances ensemble. Il y a une différence de génération, une différence de sensibilité sur un certain nombre de problèmes. Mais ça n'empêche pas de collaborer loyalement ce que nous faisons.
On parle aussi de vos rencontres dans ce livre, notamment avec Fidel Castro. Il y en a d'autres aussi, il y a d'autres personnes que vous avez rencontrées et dont vous êtes fier. Ça, c'est votre poste plutôt de ministre-président wallon qui a fait ça.
Oui, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de chefs d'État. Et le plus emblématique, c'est sans doute Fidel Castro, qui ne rêve pas un jour, quand il est homme politique, ou même de rencontrer Fidel Castro, une légende historique mondiale à la tête de son pays pendant 60 ans. Le nombre de délégations qui ont été à Cuba et qui ont espéré voir Castro sans le voir est énorme. Et donc, moi, j'ai eu cette occasion-là, et une occasion qui a pris un tour incroyable, puisque au-delà de la rencontre, au-delà de la conversation, comme j'allais rater l'avion de France qui repartait, c'est lui-même qui m'a reconduit dans sa Mercedes blindée à l'avion. Au grand étonnement évidemment de tout le monde, au grand étonnement du commandant de l'avion qui, quand on a été décollé, est venu me voir en disant « Quand on a d'avoir un ami de Fidel Castro à bord, vous le connaissez depuis longtemps ?»« Oui, une heure et demie. » Donc c'est quand même inouï comme situation et comme souvenir.
Et que dit un ministre-président wallon, Carolo, qui plus est, à Fidel Castro? Ça tournait autour de quoi,
oui,
ces conversations?
Oui, donc nous avions acheté un bâtiment sur la vieille place de La Havane, la vieille place historique, et donc je voulais lui parler de cet achat. On voulait faire une antenne de la région, et puis je lui ai dit ce qui l'a étonné, que parmi les dizaines de milliers de bouteilles de rhum qu'il fabriquait là-bas, les bouteilles étaient faites à raison de 8 millions en Wallonie, dans la région de Mont. Eh bien, Dieu, on ne m'a jamais dit ça. Voilà, je dis, chaque fois que vous boirez un verre de rhum, avec la bouteille en main, pensez qu'il est fait dans la région d'où je viens.
Effectivement. On parle aussi d'André Coles. Là aussi, c'est une anecdote beaucoup plus malheureuse, je pense, dans ce cas-là.
Oui, ça, André Coles était un grand homme du Parti socialiste, un homme autoritaire, dynamique, fort, cassant. Et donc, à un moment donné, on a eu des divergences politiques.
Pas notamment vraiment son grand ami, j'ai l'impression, ou l'inverse.
Oui, à un certain moment donné, on n'a pas vu, notamment dans les histoires des fourrons, d'un part, on n'était pas du même avis. Et il nous a fait, à Charleroi et à moi, une guerre incroyable à cause de ça. Et donc, ça a donné des chocs, des rencontres difficiles. Et la finale est tout à fait étonnante aussi, parce que finalement, il m'avait donné rendez-vous à Flémalle, sans doute pour une réconciliation ou pour une action commune dont il allait sans doute me parler, alors que ça faisait un an ou deux qu'il ne me parlait plus. Et le matin, mon chauffeur vient me chercher pour me rendre à ce rendez-vous à Liège. Et le chauffeur me dit, vous y allez quand même, pourquoi veux-tu que je n'y aille pas? Mais on vient d'assassiner André Coles ce matin. Comme je n'étais pas sûr qu'il entendait toujours bien les choses, je me dis, on va vérifier, effectivement. Le matin où je devais rencontrer André Coles, il était mort, assassiné par des tueurs à Liège. Et donc, comme dans son agenda, il y avait 11h23, qu'est-ce que c'est, 23, le jour de... c'était tout bêtement que on serait trois personnes, deux qui m'accompagneraient. On m'a interrogé longuement. Je n'étais pour rien dans l'assassinat d'André Coles. Les policiers, qui ne laissaient sans doute rien derrière eux, m'interrogé. Oui, mais est-ce que vous avez eu des disputes, etc. Vous n'allez quand même pas croire que tout ça m'a conduit à assassiner André Coles. De toute façon, je dis, j'ai un alibi incroyable. Oui, tu me dis, le policier, lequel? Un, je ne sais pas tirer avec un revolver. Deux, je ne saurais pas grimper en courant une colline. Trois, je ne saurais pas sauter sur une moto et la conduire. Je ne l'ai jamais fait. Donc, je pense que, qu'en tout cas, ça ne doit sûrement pas être moi. Oui, mais vous plaisantez avec ça, etc. Je me suis même retrouvé devant la cour d'assises pour aller témoigner lors du procès. Je n'avais rien à dire, mais bon. Ils ont quand même voulu que je comparaisse parce qu'il y avait ce fameux Vanco 3 à une heure ou deux de son assassinat. C'est des souvenirs, ça, Castro, c'est quand même des souvenirs assez incroyables.
Bien sûr. Vous parlez, et là, dans un autre style, évidemment, de, bah, des femmes dans ce livre. Voilà, les femmes, elles ont fait partie aussi de votre vie politique, et pas que.
Non, pas que de la politique, heureusement, pas que politique. Donc, je fais des considérations. Il y a les femmes que j'ai aimées dans ma vie. Il y a les femmes avec qui j'ai travaillé comme homme politique, de Loretta Onkelinx à Marie Arena. Et puis, il y a les femmes qui ont travaillé pour moi, de Marie-Ève Van Lathem, Anne Poutrin et des dizaines d'autres. Et donc, chaque fois, je me félicite des rapports que j'ai eus avec les unes et avec les autres. Et surtout, celles qui ont travaillé pour moi avaient un souci, de, comme je l'explique, de me materner, de me protéger, de mettre en condition de bien remplir mon mandat. Et donc, comme j'aimais bien, comme ça, d'être entouré, d'être guidé, d'être conduit, j'ai vécu vraiment 10 belles années ministérielles, largement entourées par des femmes.
C'est des belles rencontres, du coup, voilà, même féminines, du coup, c'était des très belles rencontres.
Oui, avec beaucoup, je suis d'ailleurs resté en contact et ami. Oui, ce sont de belles rencontres. À ce niveau-là, les gens sont intelligents, ils ont des formations, parce que moi, souvent, j'ai dit, l'important, c'est que l'entourage du ministre soit plus malin que le ministre, parce que lui, il suce tout le monde, il fait la synthèse de tout ce qu'il vous dit, et puis après, lui, il a le pouvoir de l'exprimer et de le défendre. Et ce que j'aimais bien aussi, c'était le cas d'un certain nombre de femmes, c'est que des gens qui vous disent que tout ce que vous faites est bien, ça ne sert pas à un homme politique. Par contre, celle qui vous critique, tu n'aurais pas dû dire ça, moi j'aurais dit ceci, etc. Ça vous permet de vous corriger. Donc, les gens qui vous bossent, ça ne sert à rien. Les gens qui vous stimulent, ça, c'est plus important.
Mais il y a aussi une femme particulière, c'est la Cicciolina, qui était actrice porno en Italie et députée aussi, élue démocratiquement.
Oui, ça, il faut être plus ancien, Carlo, pour se souvenir de cet épisode. La Cicciolina, qui était une actrice porno, mais a réussi à se faire élire députée de Rome, en plus, députée radicale. Alors, on me dit qu'elle vient faire une conférence à Charleroi, conférence variété, disait la demande, location de la salle de l'hôtel de ville. J'ai dit, quel honneur, une députée radicale, fut-elle une ancienne stripteaseuse, qu'elle vient de faire une conférence. Mais finalement, on me dit, mais est-ce que tu sais bien à qui tu as loué l'hôtel de ville, la grande salle de l'hôtel de ville? Non, on me montre des vidéos. Elle court à poil sur la scène, dans des positions les plus provocantes les unes que les autres. Les femmes s'en mêlent à Charleroi, il y a des communiqués. On dit au mari, j'espère que tu n'iras pas voir ça, etc. Ce qui m'a fait faire machine arrière. Et j'ai écrit en disant, bon, je pense que la notoriété de l'hôtel de ville fait que vaut mieux que vous ayez fait votre spectacle ailleurs, au Hall des Sports, au Parc des Sports, et donc on l'a délocalisé. Et il y a une telle campagne qu'il n'y avait plus de policiers dans la salle que de spectateurs. Il n'y a pas un mari qui a osé aller voir le spectacle. On avait jeté l'opprobre d'avance sur la venue de cette députée. Et alors après, bon, j'ai vu qu'elle avait suggéré de coucher avec Saddam Hussein pour faire la paix dans le Moyen-Orient. Mais donc voilà, il y avait quand même un peu de show derrière tout ça, et c'est sûrement que c'était malheureusement tombé.
Et ça n'a pas marché d'ailleurs. Alors, on va tout doucement clôturer ce livre. On va pas faire toutes les lettres de l'alphabet.
Il y aurait des heures à passer.
C'est ça. Il y a juste deux lettres que j'aimerais bien passer avec vous. Le V comme vin et Z comme zèbre. Voilà, c'est deux passions, peut-être.
Le vin, c'est une passion qui s'est atténuée avec le temps, parce qu'il faut faire attention à sa santé, etc., à partir d'un certain âge. Mais j'ai bien aimé le vin, et avec cette particularité, mon père disait que j'étais un béotien en vin parce que je ne bois pas de vin rouge. Et je bois du vin blanc et du rosé parce que j'aime de boire le vin frais. Et c'est ce qui me conduit vers ces deux catégories de vins que j'ai bien, à l'époque, consommé. Et le Z, ça, c'est au-delà des zèbres, pour qui j'ai toujours eu un penchant, qui m'était reproché, d'ailleurs, quand j'allais à un match de l'Olympique, les gens me criaient dessus, « Qu'est-ce que tu veux faire aussi, Vancouver, ville les zèbres ?» Bon, donc, mais c'est surtout le mot Zoulou qu'on a traité à la lettre Z, ça c'est quand même aussi une expérience extraordinaire. Le roi des Zoulous, en Afrique du Sud, il y a toute une région, le Zoulouland. Mais le roi n'a qu'un pouvoir coutumier. Il y a un ministre-président, il y a un gouvernement, il y a un parlement, mais il garde quand même une responsabilité coutumière. Et donc, il faisait une tournée en Europe pour essayer d'avoir de l'argent pour son dispensaire, pour ceci, pour cela. Donc, il s'est dit, Vanco Crésus à Namur, on va aller voir s'il ne s'est rien donné. Et bon, il est venu avec une délégation. Et au moment final de la rencontre, il y avait un bouquet de fleurs qui était prévu pour la dame qui l'accompagnait, une dame qui faisait 120, 130 kilos, et un livre pour lui. Je donne le livre au roi, je donne le bouquet de fleurs à la vice-présidente qui se lève et le siège reste accroché à son derrière. Les chairs étaient passées des deux côtés du bras du fauteuil, et donc voilà, elle est là devant moi, avec mon bouquet de fleurs, elle avec le fauteuil attaché à son derrière. Donc tous les collaborateurs essayent de le retirer, pof, finalement ça se détache, et puis elle a évidemment l'intelligence de ne pas s'asseoir une deuxième fois, donc elle est restée debout pour les dernières opérations. Et puis il m'a invité à aller le voir lors d'une visite. En Afrique du Sud, je me suis rendu chez lui. C'était aussi assez cocasse d'être reçu par le roi des Zoulous chez lui, parce que les femmes ne peuvent pas être plus hautes que le roi. Et donc, quand il est assis à table, les dames qui servaient venaient sur leurs genoux, de façon à présenter les plats, ne jamais être plus haut. Ben, pour plaisanter, j'ai dit, c'est quand même une belle civilisation, ils savent mettre chacun à la juste place. Ma femme ne m'a plus parlé pendant 48 heures.
Je pense que c'est avec ces derniers mots qu'on clôturera cet entretien, en tout cas entre nous, hein, qui est beaucoup plus court que le livre. Un dernier mot, vous êtes fier aujourd'hui du Charleroi qui rayonne ici aujourd'hui, du Charleroi de 2022, quoi.
Oui, mais je suis conscient du chemin qu'il faut encore parcourir pour devenir vraiment une ville plus agréable, plus sûre, plus développée. Mais j'ai ce sentiment accroché d'être Carolo de tous les vins de Côte. Mais je suis le premier qui est né à Charleroi. Normalement, nous venons de la frontière française de Bernissa. Et j'aimais bien cette formule de Guy Spital, qui disait finalement, on ne marque son époque que par quelques grandes fidélités. Et j'aime bien cette formule. Et moi, mes grandes fidélités, c'est Charleroi, c'est la Wallonie, c'est le socialisme. Et donc, je crois que si je peux marquer un peu par quelques traits de ces trois situations, ben, je crois que je serai heureux.
Merci beaucoup. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Didier Albin.
Merci à vous.
Je rappelle que ce livre, avec plaisir, je rappelle que ce livre est disponible aux éditions Kenes, Vanco, Confidence douce et amère. Disponible dans toutes les bonnes librairies, évidemment. Merci à vous deux. Merci Jean-Claude Van Coenberg.
Merci
Didier Albin. Et à très bientôt.
Merci.